Bonsoir. Il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence qui anime l'émission et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter sur notre page Facebook BDS Provence ou le site internet de l'association AMI. www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui est au pupitre. Plus de 10 mois se sont écoulés depuis le 7 octobre et nous pouvons vérifier que Netanyahou continue sa sale guerre coloniale. Déplacement de Gazaouis et bombardement de populations désarmées sont les seuls projets de l'armée israélienne. La Cour internationale de justice de l'ONU alerte, elle, sur un risque de génocide. Un cessez-le-feu immédiat et pérenne peut seul empêcher ce génocide et empêcher aussi que l'Occident, presque entier, Allemagne en tête, ne dise « nous savions, mais nous n'avons rien fait ». Israël interdit la présence de vrais journalistes sur les lieux des massacres, mais cette interdiction n'éveille pas le camp occidental. Lors de son récent voyage aux États-Unis, le chef du gouvernement israélien d'extrême droite, politique et religieuse, a tenté, pour s'attirer les bonnes grâces du camp républicain, de rappeler qu'il mène une guerre du bien contre le mal et que les massacres auxquels il se livre sont en réalité là pour protéger l'Occident tout entier. Cet argument n'a pas semblé convaincre Kamala Harris, qui lui a suggéré l'arrêt de cette guerre sans prendre la moindre mesure qu'il arrêterait. Stopper les livraisons d'armes. Comble de l'ignominie, nous avons vu Isaac Herzog, le président israélien, avant de serrer la main de Macron, qui chez lui est filmé le montrant à l'aide d'un feutre à poser chaleureusement sa signature sur des bombes avant leur largage sur Gaza. Le dernier événement attribué au Hezbollah, un envoi de roquettes sur un terrain de jeu du Golan, qui est un territoire syrien annexé depuis la guerre de 1967, et l'assassinat ciblé genre action d'un État mafieux du numéro 1 du Hamas, Ismaïl Haniyeh, pourrait multiplier les risques d'un embrasement. Et nous savons qu'Israël, qui a toujours pratiqué le principe de la guerre préventive, risque bien de rester fidèle à ce très dangereux principe. Notre revue de presse sonore continue. Ce n'est pas chez les médias mainstream que nous pouvons trouver de quoi nourrir cette revue de presse. Aujourd'hui, c'est Mediapart qui est son émission à l'air libre qui sera à l'antenne avec un titre qui dit tout de l'ambiance médiatique qui règne. Le crime le plus odieux est de s'habituer à se taire. Sorte d'incitation en direction de nos chaînes en continu. Pour une bonne compréhension de cette émission, il faut se souvenir que Mediapart l'a enregistrée avant le renoncement de Biden à mener campagne et son remplacement par Kamala Harris. Nous continuerons par une reprise d'Alain Badiou sur la sévère déclaration faite à Alain Finkielkraut. L'accolement du noble mot « juif » à l'État d'Israël. Et dans la continuité de ce genre, nous entendrons la version humoristique du duo Blanche Gardin-Aymeric Lompré sur la manière dont les gros médias usent et abusent à tort et à travers du terme antisémite. Et nous terminerons par l'écoute du trio Joubran. Place à Mediapart et à son air libre, bien nommé « Le crime le plus odieux est de s'habituer à se taire ».
Salut, bienvenue sur Mediapart. Il y a la politique en France, les JO, les élections américaines en novembre avec le retour possible de Donald Trump, le climat qui continue de dérailler. Mais dans cette actualité, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier ce qui se passe à Gaza. Gaza bombardé continuellement, ça fait 286 jours par l'armée israélienne après les attaques du Hamas et d'autres groupes palestiniens le 7 octobre 2024 en Israël. Selon une estimation parue dans la revue médicale de Lancet récemment, ce ne serait pas 38 000 personnes, mais possiblement au moins 186 000 personnes qui ont été ou pourraient mourir dans ce conflit interminable. On en discutera. Gaza, l'horreur sans fin, c'est à l'air libre. L'émission en accès libre de Mediapart. Le crime le plus odieux est de s'habituer et de se taire. Ces mots sont ceux du poète palestinien Moussa Abou Toha sur le réseau social X le 4 juillet. À Gaza, les massacres de l'armée israélienne se succèdent. Alors que le monde regarde ailleurs, les souffrances des Gazaouis, chaque jour bombardés, tués, affamés, semblent de moins en moins entendues. Le cessez-le-feu annoncé n'est toujours pas là. La solution politique qui, de l'avis général, est la seule issue possible, est encore plus lointaine. La tension régionale est à son comble. Benjamin Netanyahou est toujours Premier ministre, toujours soutenu par la livraison d'armes américaines, de bombes américaines en réalité. Le Hamas n'a pas été terrassé. Les otages israéliens ne sont toujours pas libérés. L'opinion publique mondiale dénonce un génocide, tandis que la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants du Hamas, mais aussi Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Voilà pour un premier tour d'horizon aussi rapide que déprimant et de quoi commencer la discussion avec nos invités. Rachida El Azouzi, salut, journaliste à Mediapart. Amélie Ferré, bonjour. Vous êtes chercheuse responsable du laboratoire de recherche sur la défense au sein de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la région, et on peut désormais lire vos chroniques sur Mediapart. Merci d'être avec nous. Ziane Majette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris. Chaque jour, je l'ai dit, les attaques mortelles d'Israël à Gaza continuent. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, la semaine passée a été une des plus meurtrières depuis le 7 octobre. Alors, on peut faire la liste. Au moins 90 morts samedi dernier dans une série de frappes sur la zone humanitaire, donc protégée, selon le droit international de Al-Mawasi, près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Le but de l'opération, selon Israël, était de frapper un des responsables du Hamas, Mohamed Deif. Ce mardi, au moins 23 déplacés palestiniens tués dans une école de l'UNRWA, dans le camp de réfugiés de Nusayrat. Et puis, la semaine passée, on a presque déjà oublié, pendant que l'Europe regardait l'Euro de foot, cette frappe contre une autre école de l'UNRWA à Khan Younes, pendant que des réfugiés, justement, jouaient au foot. Regardez, ça se passe de commentaires. Ziad Majed, malgré les massacres, Gaza semble sorti du radar. Est-ce que nous nous sommes habitués au pire ?
Oui, je pense que ce qui est de plus triste dans cette situation par rapport à nous à distance, c'est cette banalisation de la mort des Palestiniens. On a normalisé, on vit avec un génocide à 4 heures de Paris. Les images, les souffrances, les récits, les rapports ne font plus un effet au niveau au moins de la classe politique et d'une partie des médias. Restent les mobilisations populaires, une partie de l'opinion publique.
On parle de nous, ici en France, en Europe, aux États-Unis, mais dans le reste du monde, Gaza continue d'être un sujet important où là aussi il y a une banalisation.
Moi je pense qu'avec le temps, même là-bas, il y a une banalisation. Si on regarde par exemple le monde arabe, il y a les émotions, mais il y a aussi le sentiment d'impuissance. Il y a des régimes qui ne souhaitent même pas voir des manifestations de soutien aux Palestiniens parce qu'ils ont toujours peur que cela ait aussi des slogans anti-régime en place. Dans le reste du monde, il y a aussi des préoccupations, il y a des conflits invisibilisés. Mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, couvert avec tellement de documentation, l'un des conflits les plus documentés de l'histoire, après 10 mois quand même, on trouve que la réaction non seulement des gouvernements, mais même de plusieurs acteurs intellectuels, universitaires, n'est pas à la hauteur. Il y a un éducide en place, il y a 106 professeurs universitaires par exemple tués, il y a des dizaines de médecins tués, il y a des dizaines de journalistes tués, et dans les corps professionnels qui doivent tout de suite vite exprimer leur solidarité, leur dégoût, leur refus de ce qui se passe. La réaction est très lente et je crains que vivre avec le génocide, c'est juste s'habituer à l'horreur et faire semblant de continuer une vie sans être tout le temps interrompu et perturbé par les cris et par les cadavres. Et c'est terrible.
S'habituer à celle-là et s'habituer à d'autres plus tard aussi. Là-dessus,
je crois que Ziad a dit quelque chose de très important. Il semble que ce soit normal, que ce soit le cours normal de l'humanité, le cours normal de l'histoire, que les Palestiniens soient tués, soient massacrés, soient spoliés de leurs terres. Et je crois que c'est apparu de manière flagrante à partir du 7 octobre, mais c'était déjà le cas auparavant. Et j'ai envie de citer un jeune rappeur un jeune rappeur palestinien, MC Abdoul, qui a 15 ans et qui chante « Je suis juste un enfant de Gaza ». Est-ce que je peux vivre? Est-ce que nous pouvons vivre? Je crois que c'est la question qui est posée aussi aujourd'hui au monde entier par le peuple palestinien. Est-ce que nous méritons la vie? J'ajouterais aussi que je ne sais pas si c'est la guerre la plus documentée de l'histoire, même si on a cette impression-là, notamment par les réseaux sociaux, ou si par, je vais citer la couverture que nous on fait à Mediapart, qu'on essaie de construire de manière méthodique, mais il faut rappeler quand même que ce territoire nous est interdit. Il est interdit à la presse étrangère. C'est un scandale, il faut continuer à le dénoncer. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent porter la documentation de la guerre à Gaza, ce sont les journalistes palestiniens. Et Ziad l'a dit, ils sont assassinés. Le droit de savoir est assassiné chaque jour. Plus d'une centaine de journalistes, comme on l'a documenté, sont morts à Gaza. Sans oublier les journalistes qui ont été blessés, sans oublier les journalistes qui ont été arrêtés.
Amélie Ferré, sur cette question de la banalisation, vous regardez aussi beaucoup ce qui se passe du côté de la société israélienne, c'est intéressant aussi. Est-ce que sur cette discussion de la banalisation, parce qu'elle est importante ?
Justement, je pense que la couverture journalistique, elle est tout à fait centrale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la société israélienne, il y a très peu de couverture sur ce qui se passe à Gaza. Donc évidemment, il y a des soldats qui sont déployés et qui, du coup, ont leur perception du front. Mais la couverture en tant que telle, pour l'arrière, pour les familles qui essayent de comprendre ce qui se passe, elle est complètement inexistante. Et c'est pour ça que le fait qu'Al Jazeera ne soit plus présent dans l'espace médiatique israélien est complètement dramatique.
Ce qui a été interdit par Benjamin.
Exactement, exactement. Donc en fait, les Israéliens vivent dans une forme de bulle cognitive et ont l'impression qu'ils sont dans une citadelle assiégée et que le monde les critique par rapport à ce qu'ils font aux Palestiniens, alors qu'ils sont eux-mêmes convaincus d'avoir l'armée la plus morale du monde.
Rachida, que ce qui se passe à Gaza, c'est difficile de décrire ce qui se passe, mais dresse-nous le tableau aujourd'hui de la vie des Gazaouis. Tu as parlé avec certains récemment.
Tout à fait. La situation est catastrophique. On est face à un processus de destruction de masse de la vie et de tout ce qui permet la vie. Chaque coin de Gaza aujourd'hui peut être votre tombe. Depuis près de 10 mois maintenant, Israël, en plus de bombarder sans discontinuer Gaza, affame, assoiffe la population. Elle la soumet à un blocus impitoyable. Elle entrave l'aide humanitaire, son acheminement, ce qui fait que des denrées vitales, de la nourriture, des médicaments, du matériel médical, du carburant ne peuvent pas passer alors que les besoins sont immenses. Ces derniers temps, j'ai échangé quotidiennement avec des Gazaouis. Je pense notamment à Farida Adel Al-Roul, qui est une des dernières à avoir témoigné dans Mediapart. Son récit est absolument insoutenable. Elle explique son combat quotidien pour trouver de la nourriture, pour trouver de l'eau. Elle passe 16 heures par jour pour trouver un petit peu d'eau, un petit peu de nourriture, et ça ne suffit pas à nourrir toute sa famille, sachant qu'une partie de sa famille, notamment ses parents, sont toujours dans le nord, alors qu'elle a été déplacée plus de 20 fois depuis le 7 octobre. Elle a été déplacée plus de 20 fois, parfois à certains jours, déplacée deux fois dans la même journée, avec notamment ses grands-parents. Et ses parents dans le nord n'ont plus rien à manger. Il y a 10 des experts indépendants de l'ONU qui, la semaine dernière, ont dit qu'il y avait une famine en cours à Gaza et qu'elle était la conséquence d'une forme de violence génocidaire, je les cite. Ces derniers temps, il fait également très chaud, les chaleurs ajouté à l'accumulation des déchets qui ne sont pas traités, aux eaux usées qui ne sont pas traitées, crée une situation d'insalubrité totale, avec des nuisibles qui prolifèrent, des rats, des moustiques. Donc ça rajoute un caractère encore plus intenable à la situation.
Et toujours beaucoup de déplacements.
Tout à fait, plus de 80% de la population est déplacée. On les envoie dans des zones prétendument sûres qui sont ensuite bombardées par Israël. C'est arrivé à la famille de Farida. Et Il faut parler aussi du système de santé. Il est en partie effondré. Plus de la moitié des hôpitaux de Gaza ont été détruits, comme les écoles, comme les universités, comme les routes, comme les canalisations, toutes les infrastructures qui font la vie. L'enclave de Gaza est aujourd'hui méconnaissable. Et ce matin, j'ai eu un médecin gazaoui qui exerce dans un des hôpitaux au sud.
Des hôpitaux.
Il me disait, je suis exténué. Il me disait, j'ai jamais été aussi exténué que ces derniers jours. Les conditions dans lesquelles on travaille sont apocalyptiques. Je n'ai même plus de mots pour te décrire comment j'exerce aujourd'hui mon métier à Gaza.
Amélie Ferré, en ce moment, les centres et écoles de l'UNRWA, l'Agence palestinienne pour les réfugiés, sont particulièrement ciblés, 6 dans les derniers jours, selon l'UNRWA. Elle affirme que 70% de ces 183 écoles ont été touchées par des frappes depuis le 7 octobre. Presque toutes servaient d'abri à ces déplacés, justement. Cette agence de l'ONU là reste la cible militaire et aussi politique aujourd'hui d'Israël.
Oui, tout à fait. En fait, ça fait très longtemps que l'UNRWA est dans le viseur de l'extrême droite israélienne, parce que l'UNRWA a une définition des réfugiés qui, en fait, se transmet de génération en génération. Et donc, ça fait que ça augmente le nombre de réfugiés qui auraient potentiellement un droit au retour sur la terre de laquelle ils ont été expulsés en cas de paix. Et donc, c'est pour ça que c'est une cible politique de la part de l'extrême droite israélienne. Et par ailleurs, on peut expliquer en fait le fait qu'il y ait autant de cibles sur des civils par deux décisions qui ont été prises par Israël. D'une part, dans le ciblage, c'est-à-dire l'identification qu'ils ont de ce qu'ils doivent frapper ou non pour atteindre leur objectif militaire, ils ont ciblé ce qu'ils appellent des power targets, c'est-à-dire des cibles qui sont clés dans la structuration de la société palestinienne, de manière justement à désorganiser la société palestinienne et à faire en sorte que le peuple gazaoui se révolte en fait contre le Hamas et donc essaye de livrer des informations sur le Hamas, qui n'est pas le cas, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on bombarde des populations civiles, en fait, les populations civiles se soudent avec leurs dirigeants, comme ça a été le cas, par exemple, à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre point qui explique ça, c'est la dilution du principe de proportionnalité. C'est-à-dire que là où, pour Oussama Ben Laden, vous aviez 30 civils qui était accepté par la Maison Blanche pour tuer Oussama Ben Laden, qui était quand même l'ennemi public numéro un des États-Unis. Là, pour quelqu'un qui fait partie du Hamas, qui est un junior operative, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait le grade de même pas de lieutenant, exactement, donc, qui est en charge d'une petite unité, ils peuvent tuer jusqu'à 100 personnes. Et pour un haut commandant, c'est 300 civils. Donc, en fait, on est dans un principe où tous les civils sont complètement considérés soit comme partie prenante avec le Hamas, soit comme quantité négligeable, avec cette idée que il faut faire feu de tout bois. Et donc, c'est pour ça qu'ils ciblent aussi des écoles et des hôpitaux.
Ziad. Oui, moi je pense que aussi la question clé, c'est cette destruction de la société palestinienne. L'idée d'anéantir toute possibilité d'existence d'une entité palestinienne, si on voit la politique adoptée depuis le début de cette guerre, à la fois il y a l'urbicide, donc la destruction de tous les espaces urbains, les grandes villes. Gaza, c'est la plus grande ville de la Palestine historique, démographiquement parlant, détruite presque aujourd'hui. Il y a des domicides, l'idée de frapper les Palestiniens dans ce qui est de plus intime, le chez-soi, là où il y a les souvenirs, là où il y a une appartenance, un voisinage, un tissu social, un vécu. Il y a l'écocide, donc tout leur système d'agriculture, tout le système écologique dans lequel ils peuvent vivre, qui a été frappé, brûlé. Les images satellites montrent une différence énorme entre certains terrains où il n'y avait même pas d'opération militaire. Donc l'idée est claire, c'est juste de brûler et de détruire. Et puis il y a ce qu'on avait évoqué, l'éducide, donc tout le potentiel humain, l'avenir des Palestiniens, l'enseignement, l'éducation, l'anéantir également. Et c'est pour cela que quand on parle d'un génocide, il y a non seulement ces pratiques-là qui le confirment, avec la famine orchestrée, avec l'aide humanitaire souvent bloquée par décision, avec le siège, il y a en plus toutes les déclarations. Et toutes les métaphores et tout ce qui a été dit pendant un moment qui mène à cela et qui traite traite les Palestiniens d'êtres vivants et non pas d'êtres humains qu'on peut tuer. Même il y a le 972 magazine, le journal israélien en ligne, qui évoque à partir de témoignages de soldats que de temps en temps, quand ils s'ennuient puisqu'il n'y a pas de combat, ils ont eu l'autorisation de tuer, de tirer, de brûler, et ils se filment en le faisant, parfois en envoyant même des cadeaux volés aux maisons palestiniennes à leur famille. Donc c'est une situation de génocide.
C'est vrai qu'il y a des déclarations génocidaires des dirigeants israéliens, je pense notamment au président Herzog, qui avait dit aucun civil n'est innocent à Gaza. Donc ça veut dire que, ce qu'a très bien expliqué Amélie, c'est que finalement, chaque civil à Gaza est une cible légitime.
Et simplement, ce que je dirais, c'est que pour observer s'il y a un génocide ou pas, on peut voir les pratiques, donc comment ils font leur ciblage, quel type de munitions ils utilisent, où est-ce qu'ils ciblent, etc. Mais on peut voir aussi effectivement le discours, puisque toute la notion, elle repose sur la question de l'intention. Et en fait, dans le discours de l'extrême droite israélienne, l'idée, c'est que leur vision du conflit, c'est que en fait, il faut réduire les Palestiniens à une minorité qui pourrait tolérer en Israël sur le modèle des Palestiniens qui vivent déjà en Israël, et que donc pour ça, soit on expulse les Palestiniens, soit on les tue en fait. Et le discours politique, il en est là aujourd'hui.
Et c'est le vœu notamment des deux figures suprémacistes juives que sont Smotrich, ministre des Finances, et Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Et ils le disent clairement, pour eux, il faut recoloniser Gaza, il faut expulser. Et ils ont aujourd'hui des portefeuilles et un rôle très important au sein du gouvernement Netanyahou.
On va y venir sur le gouvernement, mais le 5 juillet, je reviendrai aussi là-dessus, une note de 3 chercheurs spécialistes de santé publique est parue sur la site de la revue médicale de Lancet. Voilà ce que dit cette note. Dans des conflits récents, les morts indirectes vont de 3 à 15 fois le nombre de morts directes. En appliquant une estimation très prudente de 4 morts indirectes pour un mort direct, donc ils choisissent d'une certaine façon, il n'est pas aberrant d'estimer que 186 000 morts ou même plus puissent être attribués au conflit en cours à Gaza. La population de Gaza étant en 2022 de 2 375 000 personnes, ça signifierait la mort de 7 à 9% de la population de la bande de Gaza. Cette étude, elle n'est pas parue dans la revue, mais sur le site, donc c'est un peu différent, on y reviendra. Elle a été critiquée sur ses méthodes par d'autres scientifiques. Elle a quand même un mérite, c'est d'évoquer ce nombre de morts dites indirectes, c'est-à-dire dues à l'absence de soins, d'eau, de nourriture, t'en as parlé Rachida, dont on parle jamais vraiment, qui existe pourtant dans tous les conflits, Amélie Ferré. Et elle, évidemment, elle donne un peu le vertige, puisqu'on se rappelle que dans les mois précédents, la question c'était de savoir est-ce que les chiffres donnés par le ministère de la Santé palestinien, aujourd'hui 38 000 morts, sont fiables ou pas, ils ont toujours été remis en cause par différentes instances, notamment le gouvernement israélien. Aujourd'hui, là, ce qui est donné comme ordre d'idée par ces chercheurs, c'est de toute façon radicalement différent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude ?
Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, dans le décompte, il faut faire la distinction entre donc, les morts directes qui résultent de frappes et les morts indirectes. Donc là, il y a tous les gens qui sont morts aussi ensevelis sous les décombres, qui sont morts de faim, d'absence de traitement, d'absence de médicaments, à la suite d'amputations, etc. Et je pense que, oui, le gouvernement... Alors, en Israël... Il y a un débat énorme sur ces chiffres parce que, en fait, l'opinion qui est quand même assez répandue, c'est que ces chiffres sont faux et que, en fait, les morts civiles sont fausses aussi et que d'ailleurs les vidéos où on voit des morts civiles sont également fausses. Donc il y a vraiment cette bulle cognitive de dire.
C'est répandu, c'est-à-dire c'est pas quelques personnes qui disent ça.
Exactement.
C'est ce qui se dit.
Non, non, c'est répandu. Évidemment, on peut pas résumer une société en une phrase, mais voilà. Par contre, le renseignement américain avait déjà alerté sur le fait que les chiffres donnés par le Hamas étaient pour eux sous-estimés. Et le gouvernement, les renseignements militaires américains ne peuvent pas être suspectés de biais pro-palestiniens. Et simplement pour donner un ordre d'idée aussi, parce que c'est très important de bien le comprendre, les cadences en fait, de frappe sur les premiers mois de la guerre ont été inédites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour augmenter leur cadence de frappe. Ce qui fait qu'on a
inédite par rapport à d'autres conflits armés ?
Par rapport à d'autres conflits armés. Et donc, quand on prend par exemple l'Afghanistan, en 20 ans de guerre, 2001-2021, on a à peu près 50 000 morts civils. Quand on prend l'Ukraine, deux ans et demi de conflit, on a à peu près 10 000 morts civils. Donc là, on en est à beaucoup plus, simplement en comptant les morts directes. Donc en fait, tout ça, c'est important pour que les gens arrivent à conceptualiser le fait que ce qu'on voit à Gaza, c'est un taux de létalité d'un conflit qui est quasiment inconnu pour une force occidentale au XXIe siècle.
Oui, j'ajouterais juste par rapport aux chiffres, puisque comme il a été dit, toujours on a questionné la crédibilité des chiffres, on les a attribués au Hamas aussi pour décrédibiliser le nombre ou le décompte des morts. Il faut savoir aussi que le chiffre réel prend en considération le fait que beaucoup de personnes malades qui ont des maladies chroniques ne peuvent plus avoir de soins. Il peut y avoir des complications par rapport à une situation sanitaire qui n'est pas fatale, mais qui le devient vu l'absence d'infrastructures médicales, tous les hôpitaux bombardés, des médecins tués, il n'y a pas de médicaments, il y a des opérations qui se font sans anesthésie, et il peut y avoir après des infections. Puis, quand il y a 20 déplacements, 15 déplacements de la même famille, l'environnement dans lequel on se trouve, on ne le maîtrise pas. Donc il peut y avoir des accidents qui n'ont pas à avoir lieu dans des situations normales, il peut y avoir des problèmes d'électricité, d'incendie, de choses non documentées vu l'ampleur de la guerre qui ajoutent aux chiffres. Et donc on n'est pas très loin d'une réalité aussi catastrophique que ce chiffre le révèle.
C'est important, juste, je voudrais citer un journaliste palestinien, un de nos confrères, qui me disait il y a quelques semaines, nous vous montrons 5% de ce qui se déroule à Gaza. Parce que nous ne pouvons pas, en fait, au péril de notre vie, aller plus loin dans la documentation de cette guerre. Mais nous ne vous montrons que 5% de la guerre. Et je crois que c'est important. Et pour se donner un ordre d'idée, je me souviens de l'historien Stéphane Audouin-Roseau, qui en mars, ou en tout cas cet hiver, dans une interview à Mediapart, on était au 5e, 6e mois, disait que c'était l'équivalent d'un million de morts en France. Il y a six mois, au bout de six mois de conflit. Donc aujourd'hui, on est
à quelque soit la réalité de cette étude, ce qu'elle nous montre, c'est qu'on est sur quelque chose de massif et qui concerne une bonne partie de la société gazaoui, en réalité, dans ses différentes implications. Amélie Ferret, parlons justement de la cible d'Israël, qui est le Hamas. Aujourd'hui, après et les autres groupes palestiniens aussi, puisqu'il y a Rachida, tu l'as raconté, un rapport du Human Rights Watch qui nous dit que ce qui s'est passé, les crimes du Hamas le 7 octobre en Israël ne sont pas juste les crimes du Hamas, mais possiblement aussi d'autres groupes palestiniens. La cible donc d'Israël, c'est le Hamas. Aujourd'hui, militairement, mais aussi politiquement, comment se porte le Hamas? À chaque fois qu'il y a une frappe, la dernière fois, Israël l'a justifié en disant on voulait cibler Mohamed Deif, un chef militaire du Hamas. On ne sait toujours pas si c'est le cas d'ailleurs. Il est dans quel état d'une certaine façon?
Ça, c'est une question très importante parce que les deux objectifs assignés à l'opération Glaive de Fer, donc l'opération en cours, c'était l'éradication du Hamas et la libération des otages. Et il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que c'est possible d'éradiquer le Hamas ou non. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'au bout de 9-10 mois de guerre, en fait, les capacités militaires du Hamas sont extrêmement réduites. Donc, sur le plan militaire, le Hamas est effectivement défait. Il reste, sur les estimations, donc à peu près, il y avait 5 brigades, il y a 3 brigades qui ont été tuées et 3 chefs de brigade qui ont été tués, donc il en reste 2. En termes d'équipement, on peut postuler qu'ils ont quand même des équipements assez légers, et qui en plus, c'est très compliqué de bouger de toute façon des équipements lourds dans les tunnels, donc ils sont quand même incapacités sur le plan militaire. Israël a effectivement perdu beaucoup de chars, et en fait, parce qu'il y a eu l'utilisation de drones, donc on voit aussi qu'il y a une stratégie du faible au fort qui quand même est dommageable pour des armées qui ont des équipements extrêmement sophistiqués et très coûteux. Mais sur le plan militaire, le Hamas est quand même extrêmement, extrêmement désarmé et aujourd'hui n'est pas du tout dans l'état où il était en octobre. Et pour Mohamed Deif, donc en fait, ça aussi l'ambiguïté d'Israël, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois, ils réduisent le Hamas à 4 personnes qui sont donc les dirigeants militaires du Hamas et des brigades Zedine Al-Qassam et le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza, donc Yahya Sinwar. Et là, la possible mort effectivement de Mohamed Deif, c'est quand même une victoire sur laquelle Netanyahou pourrait capitaliser en disant, bah voilà, oui, j'ai pas eu Yahya Sinoua, mais j'ai eu Mohamed Def, donc on peut en tout cas passer à une autre phase de la guerre et peut-être faire un cessez-le-feu. Et de l'autre...
Elle n'est pas confirmée, hein, cette main.
Exactement, elle n'est pas confirmée. Alors, elle n'est pas confirmée parce qu'ils ont utilisé un type de munition qui, était, qui en fait, a tout détruit sur la cible.
Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Voilà, ouais. Donc ouais. C'est très difficile de faire du battle damage assessment, donc de recueillir les évidences ou les preuves pour le dire. Mais cela dit, le fait qu'il n'y ait pas eu de confirmation du Hamas ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas effectivement tué.
Ziad Majed, politiquement, la question se pose peut-être différemment, puisque Amélie nous le disait tout à l'heure, on pense toujours qu'on va casser l'adhésion du mouvement qui est ciblé, et en réalité c'est peut-être le contraire qui peut se produire.
Oui. Alors je pense qu'il y a certainement un affaiblissement militaire du Hamas, même si ces combattants arrivent à mener une forme de guérilla presque partout dans la bande de Gaza, mais politiquement parlant, on est très loin d'une éradication, parce qu'il se peut qu'à Gaza, avec l'ampleur de cette guerre génocidaire, il y a moins d'adhésion au Hamas, ou bien il y a des gens qui se posent très légitimement la question sur comment on est arrivé là, pourquoi, etc. Mais il faut savoir qu'il y a en plus la Cisjordanie, il y a les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie et ailleurs, où il me semble que le Hamas se renforce, étant donné qu'il apparaît aujourd'hui face à une autorité palestinienne en déclin et incapable même de se prononcer sur ce qui se passe et de prendre des mesures pour protéger les Palestiniens de Cisjordanie, où Mahmoud Abbas et l'autorité siègent. Face à cela, le Hamas apparaît comme la colonne vertébrale d'une certaine résistance palestinienne face à l'occupant. Donc leur capacité à recruter, la question de leur présence politique, aussi au niveau des négociations,
oui, c'est
en
ça,
tant qu'acteur...
Ils discutent,
exactement,
de fait.
C'est eux, ouais. C'est les seuls qui discutent du côté palestinien. Tout cela leur donne une marge de manœuvre qui peut plus tard leur permettre de réémerger, peut-être pas comme la force palestinienne qui dirige tout, mais l'une des forces qu'on ne peut pas écarter si on rentre dans un processus politique. On n'est pas là maintenant, mais il me semble que l'affaiblissement du mouvement politiquement parlant et au niveau de l'adhésion d'une partie des Palestiniens n'a pas du tout été accompli par les Israéliens.
Justement, vous parlez des discussions en cours. Alors, le cessez-le-feu, la trêve, la libération des otages, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, ça n'a jamais abouti. Des discussions sont encore en cours, là, à l'heure où on parle, ou l'ont été récemment. Hier, le chef du Mossad, David Bernéa, a affirmé que les conditions posées par Benjamin Netanyahou pourraient mettre en danger un accord avec le Hamas sur la fin des hostilités, la libération de la centaine d'otages. Qu'est-ce qui se joue en ce moment dans ces discussions ?
En fait, Netanyahou avait repris les clauses qui avaient été présentées par Biden pour faire les négociations. Mais le point d'achoppement principal, c'est que Netanyahou ne veut pas s'engager à faire un cessez-le-feu durable s'il y a une libération des otages, mais il veut simplement faire un cessez-le-feu lors de la libération des otages pour reprendre des activités militaires par la suite, alors que le Hamas demande un cessez-le-feu beaucoup plus long, et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Et par ailleurs, donc, il y avait cette volonté de quand même aller envoyer quelqu'un du Mossad pour justement discuter en vue de la libération de ces otages-là. Et la frappe qu'a visée Mohamed Def, elle a eu lieu alors qu'il y avait cette discussion en cours. Donc finalement, l'envoyé du Mossad n'est pas parti et les négociations ont été bloquées. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui agace beaucoup, voire qui désespère les Israéliens, puisqu'il y a quand même une pression très forte qui est exercée par la société israélienne et par les familles des otages.
Depuis des mois.
Exactement, ouais. contre Netanyahou. Donc ce qui se dit en Israël, c'est que Netanyahou, en fait, joue un double jeu et essaye de miner toute négociation d'otages de manière à ne pas mettre fin à la guerre et donc à se maintenir au pouvoir.
Parce que voilà, son avenir politique en dépend. Comment, pour expliquer à ceux qui nous regardent, expliquer que Netanyahou est toujours Premier ministre ? Il a été lâché par son adversaire Benny Gantz, qui était dans le cabinet de guerre maintenant dissous. Alors c'est quoi ? C'est que comment l'expliquer simplement aux gens qui peut-être ne comprennent pas, mais tout simplement.
C'est très simple. En fait, Benny Gantz ne faisait pas partie de la coalition parlementaire. Donc, du coup, sa coalition, elle tient toujours. Il a toujours la majorité au Parlement.
Notamment avec l'extrême droite dont parlait Rachida tout à l'heure.
Non, c'est le système politique israélien aussi, où les élections se font à la proportionnelle au sein du Parlement. Et donc, mathématiquement, il a toujours une alliance lui permettant une majorité. Son alliance avec l'extrême droite, et il peut toujours élargir de temps en temps dans des moments comme celle de la guerre, où il a invité d'autres personnes à rejoindre son gouvernement de coalition. Mais sinon, il peut toujours consolider sa majorité avec des alliances d'autant plus que face à lui aussi, il n'y a pas une alternative qui s'impose de plus en plus, puisque l'opposition est fragmentée et puisque aujourd'hui c'est un moment de guerre, donc tout peut attendre dans un sens.
Est-ce que son pari c'est Donald Trump en novembre, petite incise par les élections américaines,
ou est-ce que... Pour moi, que ce soit Biden ou Donald Trump, pour lui il a un boulevard en fait, parce que Biden, on le voit, il n'est pas du tout en état d'imposer une pression sur Netanyahou et d'utiliser les leviers qu'il faudrait pour contraindre Netanyahou.
Je le dis beaucoup, mais il a encore livré des armes là récemment, des grosses bombes qui détruisent des quartiers entiers.
Et le point d'ailleurs sur l'opposition, il est fondamental, parce qu'en fait on a l'impression, nous en France, que si on enlève Netanyahou, ça va changer. Mais non, parce que Benny Gantz, il a le même agenda que Netanyahou, simplement il est plus enclin à faire une négociation pour les otages et moins enclin à aller faire la guerre au Liban. Mais sur la question palestinienne, il y a un accord.
Il faut rappeler que le 7 octobre a sauvé et en même temps condamné Benjamin Netanyahou. C'est pour ça qu'il se maintient aujourd'hui par la guerre, alors même qu'il n'a pas réussi à protéger la population israélienne, qu'il n'a pas réussi à faire libérer les otages, et qu'il est quand même le symbole aussi de l'échec sécuritaire du 7 octobre. Mais ce qui lui permet...
Sur lequel il refuse une commission d'enquête.
Tout à fait. Mais ce qui lui permet de se maintenir, c'est la guerre, parce que si la guerre demain se termine, eh bien son gouvernement tombe, et puis lui aussi, c'est la fin de sa carrière politique. Il a plusieurs accusations de corruption, d'abus de biens sociaux, de fraude derrière lui. Donc, c'en est terminé d'un homme politique quand même qui a toujours su, au long de ces décennies, se faufiler et se maintenir en place. Et je voudrais ajouter quand même qu'aujourd'hui, la société israélienne, elle est fracturée en deux blocs. J'ai beaucoup d'observateurs qui me disent cela aujourd'hui. Je pense notamment à Ilan Pappé, cet historien qui n'est pas consensuel israélien, mais qui, en même temps, fait un travail parce qu'il porte un discours différent. Il remet en cause notamment... le mythe national d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Lui, bon, il parle déjà de génocide, ce qui est très rare dans la société israélienne, qu'on vous dise qu'il y a un génocide en cours à Gaza. Il dit que ce n'est pas de l'autodéfense, c'est un génocide en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'aujourd'hui, la société est fracturée en deux blocs. Il y a deux États. Il y a l'État d'Israël, qui est porté par le bloc libéral laïque, et puis il y a l'État de Judée, qui est porté par le bloc religieux, et notamment par les colons de Cisjordanie. Et il parle d'une guerre civile froide entre les deux, et lui, ça l'inquiète terriblement. Il me disait, je crains un gouvernement, un avenir encore plus un gouvernement encore plus raciste, encore plus fasciste, encore plus théocratique en Israël. Et ce n'est pas la seule crainte qui est partagée par Ilan Pappé. Il y a vraiment eu de nombreux observateurs ces derniers temps qui me font ce récit-là.
Tant plus Ziad que sur cette question de quelle est la suite des choses sur le gouvernement en Israël. Hier, la Knesset, donc le Parlement israélien, par 68 voix contre 9, donc là on parle d'un vote clair, a refusé la création d'un État palestinien. Et la résolution de refus disait que, je cite, « l'établissement d'un État palestinien au cœur de la terre d'Israël poserait un danger existentiel pour l'État d'Israël ». On parlait de négociations politiques tout à l'heure, on n'est clairement pas dans cette optique-là.
Ouais, absolument. En fait, je voulais dire deux choses. La première, par rapport à Biden-Trump, je suis peut-être un peu plus hésitant par rapport à l'option Trump, elle sera pire. Même si aujourd'hui Biden, c'est vrai, a continué les livraisons d'armes, il n'y a pas eu un effort ni une pression pour en finir avec les massacres commis par Israël contre les Palestiniens. Mais il me semble qu'avec Trump, ça peut être pire dans le sens où ça peut, au niveau de la région, créer encore plus de tensions avec l'Iran. Il peut revenir à une certaine politique de pression sur des régimes des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, pour soutenir davantage une politique israélienne de réaménagement ou de réorganisation l'organisation de l'espace palestinien. Donc ça peut devenir pire, surtout qu'un deuxième mandat de Biden ou d'un démocrate peut être un peu plus libéré de certaines considérations. Mais en tout cas, c'est juste une hypothèse. Par rapport à la Knesset et ce vote très important, il révèle à quel point il y a un refus au sein de l'élite politique israélienne, qui représente une grande partie de la société israélienne, de l'existence de l'entité politique ou d'une identité palestinienne. D'ailleurs, le fait qu'on divise les Palestiniens en plusieurs catégories afin de nier leur existence politique et qu'on les traite toujours ou qu'on les appelle les Arabes pour nier même cette identité palestinienne et le terme palestinien évité tout le temps. On parle par exemple des Arabes d'Israël, donc les citoyens qui subissent une discrimination par rapport à la mobilité, par rapport à la propriété, par rapport à certains cas de justice, etc. Et ils sont les Arabes d'Israël. Puis il y a les résidents de Jérusalem-Est qui n'ont pas de passeport israélien, qui n'ont pas de passeport palestinien. Ils ont une résidence menacée de temps en temps, vu la colonisation aujourd'hui et la présence des Ben-Gvir, Smotrich et autres au sein du gouvernement, qui sont eux-mêmes des colons. Ils ne sont même pas issus des territoires de 48 devenus l'État d'Israël. Il y a les Palestiniens de la Cisjordanie qui subissent l'apartheid, la discrimination au niveau de l'espace, au niveau du système de loi qui les gère, la confiscation de leurs terres. Et je pense que l'obsession des colons israéliens et de la droite et l'extrême droite israélienne, c'est la Cisjordanie, ce n'est pas Gaza. Gaza, c'est on les pousse à partir, on détruit, on tue. Mais l'idée, c'est d'annexer la Cisjordanie et d'en finir avec l'existence palestinienne là-bas. Puis il y a Gaza, donc affamé, bombardé, assiégé, et il y a les réfugiés à l'extérieur, donc on vise l'UNRWA pour en finir aussi avec leur statut et ce qu'il peut représenter.
Donc pour vous, ce vote, il révèle tout ça?
Exactement. Et j'ajouterais juste qu'on a aussi tendance en Occident à considérer que ce phénomène d'extrême droitisation de la société israélienne est récent. Or, ce n'est pas vrai. La droite israélienne et la droite dure arrivent au pouvoir depuis la fin des années 70 avec Menachem Begin. Et depuis les années 70, il y a souvent eu des gouvernements de droite avec des parenthèses travaillistes, Yitzhak Rabin, assassiné par un extrémiste juif d'extrême droite, dont les descendants siègent aujourd'hui dans le gouvernement Netanyahou. Il y a eu la parenthèse Ehud Barak, mais sinon, souvent, il y a eu la droite dure avec Yitzhak Shamir, avec Ariel Sharon, Benjamin Netanyahou depuis des années et des années. Donc, ce phénomène existe. Et ce qui a affaibli la gauche israélienne aussi, c'est que les Palestiniens d'Israël, donc les citoyens d'Israël en 48, ont commencé à partir d'un certain moment à créer leur parti politique, à voter pour leur parti politique et ne plus se contenter à voter pour une gauche israélienne qui les trahit à chaque moment décisif de l'histoire, que ce soit au niveau des négociations ou des guerres. Donc c'est une société qui est très à droite, qui refuse aujourd'hui en sa majorité l'existence des Palestiniens politiquement parlant et tout ce qui se passe aujourd'hui le montre, ce qui peut aussi donner à Benjamin Netanyahou encore plus de temps, étant donné, comme vous disiez, il est menacé non seulement politiquement, mais même au niveau juridique, par des affaires de corruption et d'autres, si jamais il perd son poste de Premier ministre.
Je vais rapidement là-dessus.
Cette résolution, elle est claire, pas seulement par le nombre de voix pour et de contre, seulement 9, elle est claire parce que c'est un message très fort qui est adressé aussi au principal allié d'Israël, les États-Unis. La semaine prochaine, Biden reçoit Netanyahou et Netanyahou doit rencontrer le Congrès américain, il doit s'exprimer devant le Congrès américain. Et donc, clairement, il affiche l'option qui pour lui est sur la table, qui n'est pas l'option de deux États ou d'un seul État. Son option, c'est le statu quo. Et on le voit au quotidien, finalement, avec la colonisation qui se poursuit en toute impunité en Cisjordanie. On le voit également avec la guerre totale qu'il est en train de livrer aujourd'hui à Gaza. Sa solution, c'est le statu quo. C'est la moins coûteuse et c'est son vœu aujourd'hui. C'est celui-ci. Ce n'est pas d'aller de tendre vers une solution de paix pour deux États.
Mais plus que du statu quo, c'est parce que c'est la poursuite de la guerre et aller plus loin dans l'annexion.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Karim Khan, le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a annoncé en mai requérir des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre des dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif, on en parlait tout à l'heure, et Ismaël Haniyeh. Il a aussi requis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ce qui qui a indigné depuis des mois le gouvernement israélien, ce qui est beaucoup commenté en Israël. Hier, une chaîne de télé, Channel 14, disait que c'était peut-être imminent, peut-être dans deux semaines, il y a un débat juridique là-dessus, parce qu'on ne sait pas vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord, Amélie Ferré, sur le fait que, c'est ce que disait par exemple le Premier ministre, l'ancien Premier ministre du Likoud, Ehud Olmert, dans Haaretz, il y a quelques jours, vous verrez le jour où ça se passera, nous serons tous finalement jugés coupables d'une certaine façon. Est-ce que c'est ça, par exemple, qui peut réveiller d'une certaine façon la torpeur de la société israélienne dont vous parlez, ou pas vraiment ?
Alors, en fait, la question de la CPI, c'est une question qui remonte, en fait, dès 2011, quand il y a eu la décision par les Palestiniens de judiciariser le conflit. Parce que les Palestiniens se sont dit, bon, nous, on a renoncé à la force armée par les accords d'Oslo, sauf le Hamas, évidemment. Mais on n'a pas renoncé à avoir un État. Donc, on va utiliser le droit et on va un peu jouer le jeu pour finalement avoir un État. Et donc il y a eu tout un processus que je ne décrirai pas ici, mais bon, pour obtenir que la CPI se déclare compétente. Et ça, la cour, enfin, la droite israélienne est vent debout depuis, mais très longtemps. Enfin, Netanyahou, à chaque fois qu'il croisait un ambassadeur français, depuis des années, il lui parlait de la CPI. Il a comparé la CPI à un niveau de menace pour Israël qui était sur le même plan que l'Iran. Donc voilà, la cour a été du coup extrêmement décrédibilisée, et donc c'est pas une instance qui va pouvoir justement réveiller les consciences, parce que il y a déjà eu ce travail de sape, de décrédibilisation,
un narratif.
Exactement.
Contre la CPI,
par ailleurs, ça arrive quand même, et ça on l'a rappelé un petit peu, dans un débat sur la nature d'Israël. Sur est-ce que Israël est un État démocrate et libéral, et le libéralisme politique, ça veut dire qu'il y a un pouvoir judiciaire indépendant, et ça veut dire surtout que le droit prime sur la politique, ou sinon un Israël théocratique où l'identité juive prime, et donc la pratique politique n'est pas liée par le droit.
Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui.
Exactement, et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Il y a eu des manifestations extrêmement importantes en Israël avant le 7 octobre qui se mobilisaient justement sur ça. Et donc du coup, cette question de la CPI, elle donne aussi du grain à moudre à l'extrême droite israélienne pour dire, mais regardez, le droit est complètement déconnecté de la réalité. De toute façon, c'est une cour antisémite, et en fait toutes les cours sont nos ennemis politiques.
Et oui, tiens, rapidement.
Moi je pense que ce qui est important aussi, tout à fait d'accord, ce qui peut être ajouté, c'est la question de l'impunité d'Israël. Israël a, depuis son existence, a toujours eu une impunité totale, comme une exception au-dessus du droit international. Le fait que la CPI commence à saisir certains dossiers, le fait que la Cour internationale de justice, aussi sollicitée par l'Afrique du Sud, est en train d'examiner un cas de génocide, fait que les Israéliens ne se sentent plus tout le temps au-dessus de la loi, même si ça reste théorique pour le moment, mais qu'ils peuvent être menacés par des instruments que la communauté internationale a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Donc leur réponse est surtout une instrumentalisation de l'antisémitisme en traitant la Cour pénale, la Cour internationale de justice et toute instance qui peut mettre en doute et qui peut modifier cette configuration d'exceptionnalisme au-dessus de la loi, on peut l'attaquer et évoquer l'antisémitisme, ce qui nuit aussi à la vraie bataille contre l'antisémitisme, tellement ça a été instrumentalisé par le gouvernement Netanyahou.
Pourtant, Rachida, il y a une application concrète de ce qui se passe en Israël par rapport aux droits humains, et c'est pas juste à Gaza, c'est pas juste en Cisjordanie, c'est aussi dans ce qui se passe dans les prisons israéliennes, où là, énormément d'informations, de rapports commencent à être très précis sur le sort fait à des milliers, dizaines de milliers de détenus palestiniens, parfois avec des cas de torture et de mort.
Tout à fait. Alors, des anciens détenus, des ONG de défense des droits humains israéliennes et palestiniennes et des lanceurs d'alerte israéliens ne cessent de dénoncer depuis des semaines, des mois, des conditions inimaginables en matière de torture. Ils documentent précisément des abus systémiques, des tortures systémiques. J'ai notamment travaillé, moi, sur le cas du très précis de Sde Teman, qui est un camp militaire. Donc, ce n'est pas une prison sous la garde de l'administration pénitentiaire, c'est un camp militaire qui est dirigé par l'armée israélienne. Et on n'est pas très loin de Gaza, on est dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Et là, des centaines de Palestiniens de Gaza ont été détenus, enfermés, dans des conditions inhumaines. J'ai pu discuter avec...
Tu l'appelles le Guantanamo israélien. Enfin, en tout cas,
des anciens détenus, mais aussi les lanceurs d'alerte israéliens le nomment. C'est le Guantanamo israélien. Ils appellent à sa fermeture. C'est un trou noir, c'est une geôle d'exception où les détenus ont un statut très particulier. Comme en Cisjordanie, les prisonniers palestiniens ont ainsi un statut particulier qui est celui de la détention administrative, qui fait qu'il n'y a ni inculpation ni procès. Mmh. Ici, pour les détenus palestiniens de Gaza, c'est une loi de 2002, c'est la loi sur les combattants illégaux. Donc ils sont sous ce régime qui permet à Israël de détenir pendant 45 jours toute personne susceptible de porter atteinte à l'État, à l'intégrité d'Israël. Et ce qui s'y joue véritablement, des médecins, des employés, des anciens employés ont témoigné, c'est absolument terrifiant. Il y a eu les gens sont forcés à rester les yeux bandés dans des positions intenables. Certains ont dû être amputés de leurs membres, de leurs mains ou de leurs pieds parce que les menottes sont serrées de telle manière que il y a une gangrène qui se fait et qu'il faut amputer leurs mains ou leurs bras. Donc c'est assez terrifiant. Et il y a aussi beaucoup de violences sexuelles qui sont documentées, notamment des viols.
Et des chiens qui attaquent les prisonniers.
Tout à fait.
Et j'ajouterais juste la déclaration qui me semble extrêmement alarmante et en même temps elle révèle un certain état d'esprit, c'est celle de Ben-Gvir qui dit face à la surpopulation des prisons, il faut exécuter. Les Palestiniens considérés comme terroristes, comme ça on fait face à une situation pareille.
Amélie Ferry, cette situation, je crois comprendre qu'elle inquiète énormément certaines autorités israéliennes, notamment le renseignement intérieur, qui est très inquiet de la situation, de ce qui se passe dans les prisons israéliennes. Pourquoi ?
Mais en fait, il y a toujours eu, comme je disais, en Israël, une division avec les personnes qui veulent se battre pour un Israël démocratique et libéral et les autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce clash-là qu'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le Mossad, le Shin Bet, eux, c'est plutôt des gens qui sont convaincus qu'Israël doit être une démocratie libérale et que donc il faut, enfin avec tous les caveats évidemment qu'il y a, puisque voilà, ils ne sont pas pour un État palestinien, quoique il y a une certaine partie qui pense que justement il faut un État palestinien pour des raisons stratégiques. Pourquoi ? Parce que Tsahal est une armée limitée. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a eu quand même là la conscription, enfin en tout cas une ouverture pour conscrire les ultra-orthodoxes, qui sont une réserve donc, de à peu près 5 000 personnes en Israël, donc, et qui normalement ne faisaient pas partie de l'armée, mais qui là pourraient rejoindre l'armée. Et donc Israël, c'est une armée qui est limitée en termes de format, et qui est en fait complètement absorbée dans la colonisation et la surveillance généralisée des Palestiniens, alors que pour certains chefs militaires, il faudrait que Tsahal se repositionne, se dégage en fait des territoires pour se repositionner, pour faire face à des menaces étatiques comme celle de l'Iran. Et l'Iran, là, pour la première fois, a frappé le territoire israélien. Donc oui, ça n'a pas fait de dégâts, mais on est quand même passé sur un stade d'escalade qui est important. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre voilà, cette levée de bouclier qui existe à l'intérieur de l'appareil sécuritaire israélien, qui n'est pas nécessairement fait au nom des droits des Palestiniens, oui, mais qui s'ancre dans une compréhension en fait, stratégique et qui dit, voilà, l'extrême droite, elle est en train de mener le pays à sa perte.
Rachida, je voudrais qu'on parle quand même, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais c'est important d'en parler. Vous avez parlé de la situation régionale, on va y revenir, et qu'on parle de la Cisjordanie. C'est l'autre foyer de guerre que Israël continue de verrouiller, de réprimer ou grignoter des territoires. On voit ces images qui ont été réalisées pour Mediapart par un photographe qui s'appelle Arthur Larrier, le nom de ce que les Palestiniens de Cisjordanie appellent la route de l'apartheid. C'est la route 4370 qui relie Jérusalem aux colonies israéliennes le long au sud, je crois, de la Cisjordanie. Des photos réalisées pour un reportage d'Alice Froussard que vous pourrez lire sur cette route de l'apartheid, que vous pourrez lire ce week-end sur Mediapart. Rachida, tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est bien de passer un peu de temps aussi là-dessus. Depuis 7 octobre, la colonisation, l'annexion de fait, les routes illégales, les attaques de colons continuent, voire se sont accélérées, amplifiées.
Tout à fait. On peut parler d'accélération, en fait, depuis le 7 octobre, tandis que les regards sont rivés sur Gaza bombardé. Eh bien, la colonisation, la politique de colonisation bat son plein. Elle bat même des records. Fin juin, il y a eu une annexion de terres par Israël qui a battu tous les records. C'est du jamais vu depuis 30 ans. 1270 hectares, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. C'est une saisie jamais vue depuis plus de 30 ans et les accords d'Oslo en 1993. Moi-même, j'ai pu le constater sur le terrain en me rendant à la fois dans le sud de la Cisjordanie, mais aussi dans le centre et dans le nord. Notamment, j'ai été dans la région de Massafariata et dans la région d'Hébron. Et là, j'ai pu voir de mes propres yeux, notamment dans le village de Soussia, combien les attaques de colons quotidiennes étaient le lot quotidien des Palestiniens. Et eux n'ont pas d'armes en fait pour répliquer à ça. Souvent les colons agissent en toute impunité, avec parfois le soutien de l'armée, des soldats. Parfois même on ne sait plus reconnaître un soldat d'un colon, puisque aujourd'hui les réservistes peuvent arborer la tenue, le colon peut arborer la tenue du réserviste, et donc avoir une arme et se balader dans des SUV à travers les collines empierrées et faire espolier, hein, c'est accaparer les terres, hein, on est vraiment sur ce cas à la concret. Moi, le village de Soussia, c'est un village qui, quand j'y étais, était encerclé par des énormes morceaux de béton apportés au bulldozer par les colons qui avaient accaparé la colline au-dessus. Et les Palestiniens n'avaient pour répondre qu'un rempart de mots, à savoir les vers de Mahmoud Darwish. C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, il faut le dire, hein, il faut le marteler, en fait, il n'y aura pas de solution au conflit tant que la politique de colonisation va se poursuivre et tant qu'il n'y aura pas de décolonisation. Tout à l'heure, on parlait des prisons. Et elle s'amplifie, bien sûr. Et je voudrais revenir aussi sur les prisons dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est important aussi de redire que la prison, l'enfermement, est un outil, parmi d'autres, de l'occupation. Aujourd'hui, plus de 40% des hommes sont passés par la prison depuis 1967. 40% des hommes palestiniens sont passés par la prison depuis 1967. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, cela sert ce supplice quotidien qu'est l'occupation pour Israël.
Merci à Mediapart et à Mathieu Bagnodex pour l'animation de ce riche débat. Maintenant, nous réécoutons Alain Badiou et aussi un moment d'ironie sur le même sujet entre Blanche Gardin et Aymeric Lomprey.
Vous avez contribué à mettre en place. Non. Vous avez beau le dire, vous avez contribué à mettre en place ce système général qui empoisonne entièrement la polémique sur ces questions et qui est l'identification du signifiant et du noble mot juif à la politique israélienne et à l'État d'Israël. Vous avez étatisé le mot juif, vous l'avez collé à l'État d'Israël, et maintenant, vous vous plaignez du fait que critiquer l'État d'Israël soit critiquer les juifs.
Eh bien, depuis le 7 octobre, je suis antisémite.
On applaudit, bravo. Bravo. Merci. Blanche, bravo.
Ça m'a...
Oui, oui.
Ça m'a rendu vachement triste.
Mais oui,
d'apprendre que j'ai... Parce que moi, je viens d'une famille de gauche.
Voilà, alors, t'inquiète pas, Blanche, ici, tu es dans une safe place. Ici, personne ne te jugera, car ici, on est tous antisémites. Pas vrai, les copains? Blanche, quel a été le premier signe?
Ben, c'est le truc con, quoi. J'ai posté sur ma page Facebook, c'était juste après le démarrage du génocide. De la guerre contre les Palestiniens. Contre les colonisés.
Non, Blanche, pas les colonisés.
Contre les vilains arabes.
Alors oui, non, alors... Alors, sur CNews, oui, mais... Si on était sur France Inter, on dirait contre les...
Les terroristes.
Les terroristes. Bien entendu. Alors, il y a donc le début de la guerre contre le terrorisme. Et qu'as-tu fait, Blanche? Qu'as-tu fait?
Eh ben, j'ai posté un appel à manifester pour le cessez-le-feu.
Et tu n'as pas senti que c'était antisémite?
Ben non, au début, non.
Mais enfin, Blanche, enfin! Enfin, cessez le feu, Blanche. C'est qui met le feu? Qui met le feu?
Les Israéliens.
Et les Israéliens, ce sont des Juifs, Blanche. Donc, si tu appelles à cesser le feu et que ce sont les Juifs qui mettent le feu, tu es donc contre les Juifs et tu es donc
antisémite.
Oui. Antisémite. CQFGDT.
Merci aux humoristes et nous allons finir en musique avec l'inépuisable trio Joubran en concert à l'Institut du Monde Arabe. Au revoir à toutes et tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue de presse sonore. Shut up.